Bonjour Fabrice Lardrault.
Bonjour.
Votre nouveau roman, La guerre de sécession, imagine, sur les traces d'Astérix le Gaulois, qu'un petit village français décide de déclarer son indépendance et s'affranchir de l'autorité de la France. C'est une fable, mais qui trouve néanmoins beaucoup d'écho dans le monde actuel. Est-ce que vous avez l'impression en effet qu'un vent de rébellion souffle ici et là sur nos sociétés ?
Oui, ben c'est-à-dire que ce roman, je l'ai écrit entre octobre 2015 et juin 2016. Je l'ai écrit en fait avant que pas mal d'événements surviennent, c'est-à-dire le Brexit de juin 2016, l'élection de Donald Trump, l'indépendance catalane surtout, qui était comme un gros événement, enfin un gros début de l'automne dernier, ce qui se passe en Corse aujourd'hui. Et en fait, ce qui était une idée qui m'est venue, je ne saurais dire comment, comme ça, un week-end, effectivement, est devenue un petit peu, malgré moi ou avec moi, une métaphore d'un processus un petit peu de, moi que j'appelle de déglobalisation, c'est-à-dire de revendication pour des raisons multiples, parfois qui remontent à des époques assez éloignées, de s'affranchir du cours mondial de l'histoire politique et économique pour recouvrir une forme de maîtrise de son destin. Et donc après, pour des critères parfois de revendication identitaire, mais pas seulement. En gros, c'est l'idée, voilà, de s'affranchir d'un monde globalisé, mondialisé, et d'échapper à un destin qu'on juge trop parfois brutal, trop autoritaire, et dont on veut s'écarter.
Précisons immédiatement que le titre de votre roman n'est en aucune sorte une référence à la guerre entre le Nord et le Sud américain au XIXe siècle, mais en revanche c'est une expression qui a été employée récemment par un scientifique français, n'est-ce pas ?
Oui, en fait je me suis rendu compte encore une fois, les idées de roman, en tout cas en ce qui me concerne, sont toujours des moments assez incontrôlable et bizarre parce que je ne sais pas vraiment comment une idée me vient. Ce dont je suis sûr après coup, c'est que l'expression effectivement qu'a adoptée Axel Kahn, donc lorsqu'il a fait la traversée de la France à pied entre les Ardennes et le Pays Basque, en fait il a traversé des villages notamment du nord de la France, des villages sinistrés socialement, économiquement, et il a été frappé par le fait que beaucoup des gens qui croisaient lorsqu'ils dormaient dans ces villages étaient en état de rupture avec le pouvoir français, avec l'Europe. Et il a eu cette expression à l'époque de dire que voilà, qu'on est quasi en état de sécession. Ça a été à l'époque repris notamment par François Bayrou, et ça a comme marqué les politiques. Et je pense qu'il avait saisi un petit peu un état de la France aussi aujourd'hui. Effectivement, cette expression, je me suis rendu compte qu'elle avait certainement présidé à mon titre, qui m'est venu assez vite quand j'ai écrit ce roman, et que probablement son observation sociologique assez circonstanciée, et ce que moi j'essaie de faire dans une fiction, probablement avait des échos avec une situation politique présente.
Alors effectivement, il y a une dimension sociale et politique dans votre roman, mais néanmoins cela reste vraiment une fiction, puisque vous vous attachez à cette commune de Lamartin, donc dans le nord-est de la France, en rupture avec l'État qui déclare son indépendance. Lamartin n'existe pas, mais vous vous êtes inspiré de la ville de Dammartin, oui, en Goële, où s'étaient réfugiés deux terroristes après l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, et vous faites d'ailleurs référence à cet épisode tragique. Pourquoi le choix de cette ville comme théâtre de la résistance ?
Si vous voulez, le processus de mon roman, c'est l'idée que un village qui a pris ricochet, dont on n'est pas censé entendre parler, devient célèbre mondialement. Et c'est ce qui s'est passé pour Dammartin d'une manière plus tragique, c'est qu'effectivement, ces deux terroristes, après avoir assassiné la rédaction de Charlie, sont allés se réfugier, sont arrivés dans ce petit village assez improbable, qu'en tout cas moi je ne connaissais pas jusqu'à ce que les faits se produisent, et qui du jour au lendemain, enfin dans les minutes et en direct, on a suivi tout ce qui s'était passé, a pris une notoriété fulgurante. Et donc voilà, c'est aussi parce que, comme vous l'avez justement dit, ça reste une fiction. Une fiction que j'ai voulu aussi les guider parfois par l'absurde, par le burlesque, par le décalage. Donc j'ai un petit peu pris le contre-pied de ces attentats de Charlie, qui étaient évidemment, pour des raisons d'extrémisme religieux. Moi, j'ai rendu célèbre ce village pour des raisons d'extrémisme laïque, puisque donc les terroristes qui s'y sont réfugiés par le passé, un an avant que les faits de mon roman se produisent, auraient assassiné les trois hauts plus des grandes religions monothéistes françaises. Et voilà, c'était une manière pour moi de faire un pied-nez, en même temps de mettre en scène quelque chose qui avait marqué les esprits et les médias.
Alors effectivement, vous prenez souvent le contre-pied de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et par exemple, l'histoire nous est d'abord racontée par Simon, un journaliste qui est venu enquêter sur ce village, donc qui se met en marge. Et par ses yeux, on découvre à quel point finalement le vœu de se couper du monde va finalement totalement se retourner contre la commune.
Oui, oui, bah c'est d'ailleurs, enfin moi, ça me semble un effet quasi plausible. D'ailleurs, on a vu récemment pour la Catalogne, bon, même si Barcelone est une ville mondialement connue, une ville très emblématique, mais pour autant, évidemment, les médias du monde entier s'intéressent à cette commune, et il n'est pas après tout absurde de supposer que cette commune devient célèbre et que, devenant célèbre, on souhaite s'y rendre et que, dans la foulée de ces décisions, ce soit le tourisme qui prenne le relais des journalistes et que ça change complètement la destinée des villageois.
Oui, effectivement. Alors, ça commence en Colombie. Il y a un blogueur qui cite ce cas exemplaire. Très vite, la terre entière a les yeux braqués sur cet épiphénomène. Et au lieu d'être en paix, la Martinique devient la cible d'un tourisme de masse. Donc, l'histoire tourne au paradoxe.
L'histoire tourne exactement au paradoxe. Oui, mais comme vous le relevez à propos du blogueur colombien, ce que je voulais aussi peut-être finalement montrer, c'est que la perception qu'on peut avoir d'un fait est parfois diffère entre ce qu'il en est dans le pays où ça se produit et ce qu'on voit à l'étranger. Et en France, les médias voient plutôt la Martinique comme une forme de nouveau repli identitaire. Et de Colombie, ce jeune blogueur, lui, voit ça un petit peu comme des héros de l'anti-mondialisation, donc ils ne sont pas du tout dans cette logique régressive. Et effectivement, c'est ce qui rend petit à petit, en Colombie d'abord, en Amérique latine, et puis après, ça se produit dans le monde entier, ce qui rend le village célèbre et donc qui attire ces touristes très différents et très nombreux.
Assaillis donc par les Anglais, les Chinois. Et donc là, ça devient presque carnavalesque.
Ça devient carnavalesque, oui, effectivement, ça devient... Bon, encore une fois, ce roman, il n'a pas une vocation de réalisme social. Donc, il y a un côté de la fable, comme vous le disiez tout à l'heure. Et voilà, donc je tire les situations jusqu'au point de rupture et jusqu'au point d'absurde. Et on a vu effectivement comme le cas parfois de... Je me souviens d'avoir traversé le Luberon il y a un certain temps, et j'avais été frappé de voir des villages qui étaient quasiment morts parce qu'ils avaient été à la mode à un moment. Donc ils avaient été très prisés par des acheteurs parisiens ou étrangers. Donc ces villages fonctionnaient, il y avait des commerces. Et puis il suffisait que la mode change pour que les touristes revendent leurs maisons et que les commerces disparaissent, ou en tout cas s'étiolent avec leur départ, et que le village voilà, change complètement de tournure et qu'on passe à un autre village. Et c'est un peu ce qui se produit dans le mien, dans cette histoire.
Autre paradoxe, cet épisode est en fait aussi raconté par un historien du futur qui fait de nombreux commentaires en bas de page. Oui. Et au fur et à mesure de notre lecture, finalement, ce sont ces parenthèses qui deviennent presque plus importantes que le récit factuel.
Oui.
Pourquoi ce jeu littéraire ?
Ah bah, d'abord parce que j'aime bien m'amuser. Enfin, j'aime bien aussi bien faire rire mes lecteurs que m'amuser en écrivant. Et que j'aime bien les histoires à plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de romans, notamment je fais référence dans le livre à Lanark, donc de l'écrivain écossais Alasdair Gray, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a une petite dizaine d'années. Et j'aime bien les livres en fait qui imbriquent plusieurs histoires, qui ont plusieurs niveaux de lecture, et les notes de bas de page qui sont un système tout à fait sérieux et tout à fait louable pour étayer ces informations, que ce soit dans un texte universitaire ou pas. Je voulais un petit peu détourner ce système pour effectivement avoir deux niveaux de lecture et qu'au bout d'un moment, comme vous le dites, les notes de bas de page empiètent sur le récit principal, au niveau visuel, enfin sur le volume de la page, au niveau narratif, et puis que ces notes de bas de page racontent aussi leur histoire, et que au fil de mon roman, bien sûr, mon historien raconte l'histoire de Lamartine, il raconte ça 20 ou 30 ans après, mais il commence un petit peu à parler lui, ce qui est logiquement pas dans l'éthique universitaire, parce qu'on est censé s'emparer d'un objet, mais pas forcément revenir dans cette histoire. Et voilà, je voulais un petit peu que mon historien, par petites touches, nous raconte sa propre histoire, et puis racontant son histoire, raconte un peu ce que le pays va devenir plus tard et que ces deux histoires se répondent.
Et ce qu'il nous raconte est un peu inquiétant. Et justement, votre roman est infiniment drôle alors que le sujet est plutôt grave. Et comme je le disais, vous ne semblez pas non plus très optimiste sur notre avenir, en tout cas au regard de ce que nous annonce l'historien. Avec cette hypothèse d'un Front National très puissant dans les années à venir, une forte censure, encore plus de radicalisation. Comment faites-vous pour garder ce ton humoristique ?
Bah, peut-être que l'humour est ma façon de conjurer ce que je pressens comme inquiétant. Enfin, c'est une manière de mettre ça à distance et de m'en moquer, quoi. Après, mon histoire, bon, je la prends pas comme une histoire de prospective, mais c'est vrai que le Front National, en fait, je pense, est loin d'être mort. la tactique qu'a pris Marine Le Pen de s'emparer des zones rurales dans lesquelles se passe mon livre, et de faire croire qu'elle comprend un vrai désarroi de cette France que Christophe Guillou appelle périphérique. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est un trait dominant, qui va continuer dans la vie politique française, que ce soit elle ou Laurent Wauquiez, qui semble se rapprocher de cette manière d'appréhender ces populations, se dessine. Probablement, ça traduit en tout cas un courant politique français qui, à mon avis, est loin d'être défait et encore certainement des beaux jours devant lui.
Et pour finir, Fabrice Lardot, ce village qui décide donc de s'affranchir de toute autorité, de déclarer son indépendance, pour vous, c'est une utopie ?
Il y a une forme d'utopie, certainement, dans mon histoire, notamment à la fin, alors je ne sais pas si on doit tout raconter, mais à la fin, quand il y a des retrouvailles entre des Parisiens et puis ces villageois qui mettent à distance leurs préjugés pour essayer de construire quelque chose ensemble. Oui, pour moi, je vois ça un petit peu comme une forme d'utopie. J'aime bien l'idée que les gens se parlent. Je pense qu'un des grands problèmes de notre pays aujourd'hui, c'est les a priori infondés, évidemment, que les uns comme les autres ont sur les autres couches de la population, dans une société qui est de plus en plus spatialisée, où en fait, dans un même quartier, vous avez des segmentations socioculturelles extrêmement fortes, et de gens qui, en réalité, alors qu'ils sont parfois à quelques centaines de mètres, n'ont aucune vie en commun, n'ont aucun vivre ensemble. J'aimais bien l'idée que, voilà, que dans mon histoire, à la fin, au sein du village, et puis entre le village et le reste du pays, il y a une communication et un dialogue qui s'installe.
Merci beaucoup Fabrice Lardot.
Merci.
Je rappelle le titre de ce roman, La guerre de sécession, qui a paru chez Le Mieux Éditeur.